La bande originale, Nagui. Voilà, c'est comme ça.
Oh! Est-ce qu'on peut faire moins d'enthousiasme?
Ah non, mais elle a jamais fait ça!
Mais c'est génial!
Elle a jamais fait ça! Mais c'est une sorcière!
Elle parle avec son cœur!
Il faut des fois changer les habitudes!
Je rêve! Mais ça va se sentir que vous m'aimez pas, Laetitia, vous pouvez pas faire ça!
Mais non, c'est pas vous!
Mais non!
Un petit sourire dans la voix au moins!
Oui, je sais pas, un truc pro!
Bon, la bande originale, c'est parti, allez hop! Go!
Ah ben voilà, vous avez deux sourds muets maintenant à la Merci Laetitia Gaillet, moi je vous aime et le retour de l'info ça sera à midi. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Tout à l'heure il y aura Tanguy Pastureau. Déjà Daniel Morin.
Bonjour Daniel.
Et nos invités Tom Novembre et Christophe Malavoie. Merci à tous les deux de venir en plein travail, en pleine répétition, on l'imagine, et en pleine journée. C'est au théâtre Michel que ça va se passer. On commence par une fausse note. Fausse note et ce titre. Et la pièce est signée Didier Caron. Ça commencera le 21 septembre. Au stade où vous en êtes maintenant, ce sont des lectures, des répétitions dans le décor, des filets. Une semaine avant, on en est où?
Dans la mesure où on a bien musclé le spectacle cet été à Avignon, où on a vraiment, on peut dire cartonné, on est plus dans des réglages de finition, de... Voilà, vas-y Christophe.
Non mais c'est vrai, on vient d'une expérience formidable à Avignon où il y avait eu tout de suite le spectacle a pris. A été très 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 bien reçu. Donc là, on le reprend dans un autre lieu. On va s'adapter à ce lieu qui est aussi le théâtre Michel, un lieu très très intime. Donc
est-ce qu'il faut réapprendre le texte, par exemple, de l'avoir joué cet été et de passer ne serait-ce qu'un mois sans jouer? Est-ce que là, d'un coup, il faut se remettre dedans, retrouver le rythme puisqu'on est dans le monde de la musique. On va évidemment dire de quoi ça parle, mais d'abord là, comme un sportif, il faut se remettre à courir un peu.
Ah oui, oui, oui. Ouais. C'est...
Petit décrassage.
Ça, c'est après. Décrassage, c'est après le match. Alors, fausse note, ça se passe dans les coulisses d'un concert. Après un concert, un chef d'orchestre n'est pas très content
de
ce qui vient de se passer, même
de l'ensemble.
Globalement,
de
l'ensemble. Vous êtes le chef d'orchestre, Tom, dans cette pièce. Et puis un fan, un admirateur, joué par Christophe Malavoie, vient dans les loges et déjà commence à capter deux trois bouts de dialogue ou de l'énervement du chef d'orchestre. Il entend qu'il n'est pas content de son virtuose Schlesinger.
Spinzer, excusez-moi, cherche
un nom qui est ressemblant.
Spinzer, je crois.
C'est une vanne radio France.
Spitzmer.
Et donc il lui demande un autographe, une photo. Est-ce que vous pouvez prendre la pause et ainsi de suite. Et il finit par rentrer dans son monde et j'allais dire presque cambrioler l'intimité de cette loge et ça va devenir un peu suspect, Christophe.
Ah c'est oui, ça, ouais. Il est mystérieux. D'abord, il vient naturellement pour demander un autographe. Et petit à petit, il s'incruste, il devient de plus en plus envahissant. Il semble connaître très bien la vie de cet homme.
Très bien la vie professionnelle dans un premier temps.
La vie professionnelle dans un premier temps, la vie familiale, savoir, il sait où il habite, il sait tout ce qu'il a fait. Donc ça devient quand même très intrigant, de plus en plus insistant. Et bien sûr, ce chef d'orchestre va essayer de le mettre dehors, de le faire sortir de sa loge. Et lui va s'incruster, va revenir sans arrêt. Et là, ça devient de plus en plus tendu, de plus en plus inquiétant.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un vrai thriller. Personnellement, j'ai lu la pièce. Je n'ai pas eu la chance d'être à Avignon pour vous applaudir. Mais quand je l'ai lu, à chaque ligne, à chaque phrase, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? J'essaie de deviner d'abord qui... finalement peut-être pas qui manipule l'autre mais enfin qui va prendre le dessus en tout cas sur l'autre.
C'est un thriller psychologique très intense et il y a un suspense dans cette pièce incroyable.
Exactement.
C'est construit un peu comme un film d'Hitchcock, je trouve.
Et il y a plein de pistes sur lesquelles vous nous emmenez. On se demande si c'est une affaire familiale, si c'est une affaire d'ordre privé, sexuel, voilà,
il y a une jalousie, voilà.
Est-ce que c'est un violon qui a été refusé lors d'une audition et est-ce que c'est un ami de ce fameux premier violon qui s'est fait, qui se fait engueuler? On ne sait pas.
On ne sait pas ce qui va se passer.
Et c'est pas ici qu'on va le dire, Christophe.
Non, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. C'est ça qui est fort.
Oui, ça commence un peu comme l'emmerdeur et ça vire discrètement à, je ne sais pas si vous vous souvenez de La Valse des Pantins, le film de Scorsese, qui est au demeurant une histoire de fan absolue d'un homme de télé qui finit par séquestrer ce type.
Ce qui peut être Misery.
Une comédie au départ.
Stephen King, Misery, ce qui peut être aussi John Lennon avec malheureusement Mark Chapman en se disant mais jusqu'où peut aller un fan.
Toute forme de huis clos auquel
ça devient dangereux,
de situation.
J'espère vous, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi nous avons invité Tom Novembre et Christophe Malavoie.
Ça n'a pas été simple, voilà. Donc la pièce où l'a dit, fausse note, donc l'histoire d'un chef d'orchestre qui est importuné par un fan qui lui rappelle un passé qu'il voudrait oublier. Par contre, on peut pas en dire plus, voilà, vous avez déclaré.
On peut point.
Vous l'avez dit, Tom, dans une interview, il ne faut pas spoiler la pièce, ça lui fait perdre son charme.
Oui.
Vous avez l'air sûr de votre coup, parce que voilà, si l'intrigue n'est pas béton, si en gros il a juste grillé un feu, il n'a pas payé une amende, payé 40 balles, voilà. Non mais voilà, on ne peut pas dire de quoi ça parle. Généralement, c'est que le sujet est un peu sensible, un peu touchy. Voilà, par exemple, Daniel refuse toujours de nous raconter ses vacances de cet été au Maroc. Voilà, avec l'équipe. On cherche pas nécessairement à creuser, c'est sa vie privée, ça le regarde. En tout cas, c'est ce qu'on a dit au juge. Donc, est-ce qu'on peut parler, par contre, en revanche, deux secondes, des mecs qui viennent te ressortir des gros dossiers dans des moments gênants?
Genre
je sais pas, genre les témoins de mariage. Ça, c'est des vrais parasites. Si, c'est des vrais
parasites. C'est vrai que c'est une tradition.
Non, mais le mec, sous prétexte que t'es son ami depuis 15 piges, que vous avez grandi ensemble, vous avez passé 3 vacances et 5 cuites, le mec, il se dit qu'à ton mariage, qui est le plus beau jour de ta vie, ou du moins le dernier, devant tous tes amis, ta famille, voire pire, tes collègues, le mec, il va te sortir des photos où tu fais de la pole dance contre un réverbère en train de sortir 3 vodka pommes. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça. Moi, j'ai envie de me marier très vite. Comme ça, je vais voir ce que vont faire mes potes. Comme ça, j'ajuste le tir après pour bien leur niquer leur mariage. Ah ouais, t'as imprimé des photos de moi au slip que t'as collé devant la mairie? Ok. Bouge pas. Je vais louer un avion avec une banderole au cul, comme sur les plages. C'est pour dire que Benjamin pratique des massages bucco-péniens au 06 78. Voilà, ça va bien être pénible. On embrasse Benjamin.
Je le connais.
C'est quoi ce numéro?
Je suis fasciné par cette passion.
Il a envoyé un vrai numéro.
Attends, je vais appeler.
Ouais,
appeler. Quoi, bucco?
Je suis fasciné par cette passion qu'ont certaines personnes pour aller fouiller dans le passé. Cette semaine, on a retrouvé un retraité qui a fait son arbre généalogique et qui avait retrouvé 55 000 de ses ancêtres. T'imagines la taille du truc? Je crois que ce monsieur, il a beaucoup pris à cœur la formule pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Non, mais c'est vrai. Tu viens d'où, toi? Bah, ça dépend. Dis-moi quelle époque. Parce que sous l'Égypte ancienne, je suis à 3 branches de Ramsès II et 4 de Nagui. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai. 55 000 ancêtres. Alors, bien sûr, tout le monde ne peut pas arriver à ce résultat. Boutin, s'il a fait son arbre généalogique, ça lui prend un post-it. Non, mais c'est pas un arbre, c'est un tronc. Il n'y a pas de branche. C'est un bambou généalogique. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, Christophe Follavoie et Tom Novembre. Et bonne émission.
Merci, Tom.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
T'as envoyé le 06 d'un pote, c'est ça?
Ouais, à mon avis, ça sent la vengeance, ça, Tom Villa.
Pas du tout.
Ce
qu'il faudrait savoir, c'est
Prénom, c'est Benjamin, c'est ça?
Ouais, Benjamin. Qu'est-ce qu'il lui a fait pour qu'il file son numéro à l'antenne? C'est ça qui serait intéressant.
Mais c'est Benjamin que je connais de tes potes ou pas?
Bah, peut-être.
Avec qui il se marie, Benjamin?
Ouais, il va se marier, ça va être un beau mariage, on ira tous.
Ça va être Castaldi, se marie tous les 2 ans. Donc.
Fausse note. La fausse note dans cette pièce, j'allais dire dans ce film, parce que c'est vrai que ça pourrait être aussi un film à la Usual Suspect. On pourrait se dire aussi jusqu'à la fin, et le dénouement se passe vraiment dans les dernières répliques
souvent,
de
hein.
cette pièce de théâtre.
Souvent, on a dit, hein. Oui. Le principe du suspense, ça arrive vers la fin. Bon, c'est pas montage.
Quand ça arrive au début, c'est
plus belle la vie.
C'est risque. Il y a une prise de risque, mais c'est.
Non, mais il est pointu. Il est fort. Pas juste un beau gosse.
Personne ne t'aide.
Vous êtes des chiens.
S'il te plaît.
On va préciser qu'on est au Philharmonique de Genève. Mmh. C'est ce qui est important parce que.
Dans les années 80.
Voilà. Et parce que vous allez être peut-être nommé à Berlin.
Voilà.
Vous êtes allemand.
Suisse-allemand.
Suisse-allemand, c'est ça, dans la pièce. Et on va dire qu'il y a, sans encore une fois dévoiler ce qui se passe, vous êtes de la génération née pendant la Seconde Guerre mondiale.
Matures. Bon, c'est dans les années 80, ils ont notre âge à peu près, donc, et ils étaient
ados. Une vingtaine d'années
ados,
pendant la guerre.
Pendant la guerre, oui.
Mais comme on ne sait rien de ce qui va se passer dans cette pièce, on se retrouve finalement vraiment nous, spectateurs, dans la situation du plus du chef.
D'essayer de deviner.
Non, mais on est dans le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on se met, on est plus de votre côté en disant, il nous saoule celui-là à venir dans notre loge, à venir nous harceler et nous demander des comptes.
Oui, c'est, disons que très vite, mon personnage se retrouve un, entre guillemets sur la défensive, c'est-à-dire qu'il y a un type qui tape l'incruste.
Victime.
Il est pressé, il a besoin d'aller discuter justement de sa nomination avec sa femme qui est pas toujours pas partante sur le, sur l'idée. Donc il est dans
de
cette
préoccupation
là.
De déménager à Berlin.
Voilà, sa soirée s'est pas bien passée, le concert était pas parfait, parce que c'est un perfectionniste et assez autoritaire. Et donc voilà, voir débarquer cette espèce de d'étranger bon lambda, il en connaît, il a du succès, donc il est assez rompu à l'exercice. Bon, il est poli au début, mais ce type revient. Bon, déjà trois fois, et puis après, je vous dis pas la suite.
On imagine si Karajan devait accueillir
ça. Comme arrive, ça. Hein, des fans qui reviennent, qui s'incrustent, ça nous est arrivé à tous au théâtre.
Ça peut arriver.
En disant qu'ils ont des dossiers sur votre vie personnelle.
Pas forcément, mais il y a quand même des gens qui sont.
Parlez-nous, Christophe, alors.
Parlez-nous de vos dossiers.
Est-ce que ça, c'est une angoisse d'avoir comme ça des gens qui viennent s'immiscer dans la vie privée en connaissant tout de vous? Où vous habitez, qui vous êtes, le prénom de votre femme.
Ils viennent parfois avec des piles de photos, d'articles, donc on dédicace, et puis ils s'incrustent, ils vous parlent de ils ont vu ça, il y a même des choses qu'on a complètement oubliées, et il y a parfois des gens un petit peu lourds, et on ne sait pas comment
s'en
défaire.
Mais qui ne vont pas jusqu'à parler de votre famille.
Non.
Ça c'est flippant ça.
Là, dans la pièce, soudain coup,
c'est
vrai
que... Non, parce que c'est vrai que c'est l'un des premiers déclics, c'est lorsqu'il commence à parler de l'épouse du chef d'orchestre.
Son prénom.
Et là, il connaît son prénom, voilà. Il connaît tout.
Alors qu'elle n'est pas connue, alors que c'est pas une vedette.
Non, il connaît
sait
ses
qu'il
filles,
a rendez-vous la semaine prochaine à Berlin, donc il connaît son agenda par cœur presque. Donc c'est ça qui fait peur. Et ce type-là, qui arrive plutôt de manière assez affable et assez sympathique au départ, devient de plus en plus intrigant et fait peur.
La définition de cette pièce est de dire que c'est quoi un thriller psychologique, que c'est un drame, que ça part d'une histoire vraie ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas. Il faut demander à Didier Charon, peut-être, mais...
Je pense que c'est peut-être... En tout cas, oui, je pense que ça peut...
Il y a un fond de vérité.
Il y a un fond de vérité, oui, je
d'accord.
pense.
Bah, tout est crédible, fort. En tout cas.
Clairement.
Tel que c'est
proposé. Ouais.
Donc, tiré d'une réalité, ça, c'est seul l'auteur à la clé.
Mais il y a un affrontement absolument terrible qui se déclenche vers le milieu de la pièce. Et là, ça devient très, très fort. Ah oui. Ça devient...
Est-ce que chacun aurait pu jouer le rôle de l'autre? Est-ce que vous êtes posé la question de savoir qui allait être le chef d'orchestre, qui allait être le fan
Je pense qu'on pourrait jouer, on pourrait intervertir les rôles, oui.
Oui, oui.
Ça serait intéressant d'ailleurs.
Mais la question s'est jamais posée de savoir au départ. Quand j'ai lu la pièce, je savais que Christophe serait éventuellement mon partenaire à ce moment-là. Mais par la suite, effectivement, on s'est posé la question et on pourrait effectivement switcher.
C'est drôle parce que Christophe n'a pas l'air inquiétant. C'est vrai, vous avez l'air posé.
Oui, j'ai pas l'air inquiétant, oui.
Mais c'est pour ça que pour un acteur, c'est formidable. Mais tout à l'heure, vous m'avez serré la main et vous êtes un peu inquiétant.
Mais d'ailleurs, le fan au début, puisque c'est vrai que ça peut se présenter comme une comédie, le fan au début n'est pas inquiétant.
Non, mais c'est ça, pour un acteur, c'est formidable de jouer ça. Moi, j'ai vraiment une palette de sentiments et c'est un rôle entre le début et la fin, c'est pas du tout le même homme.
Et même chose pour le spectateur, c'est-à-dire qu'au début, on est plutôt, comme le disait Nagui, dans une forme de compassion pour le chef d'orchestre, parce qu'il est importuné, même si on peut se dire bon, il exagère un peu, il est très connu, il a la gloire, il pourrait se montrer un tout petit peu plus agréable avec son fan.
Le personnage n'est pas forcément très sympathique en tant qu'individu.
Moi, le personnage n'est pas très attachant, et puis on le trouve un petit peu. Un peu étrange, ce qui fait qu'en tant que spectateur, en lisant la pièce, là encore, sans rien dévoiler, on oscille entre vos deux personnages. On peut très rapidement basculer dans votre personnage à vous et revenir au vôtre, Tom Novembre. Donc on est là aussi, c'est intéressant comme petit voyage pour le lecteur, en tout cas, et j'imagine pour le spectateur.
On va repréciser aux auditeurs que par respect pour la pièce, pour l'auteur, pour les comédiens, on n'en dit pas trop. Je suis en train de lire une espèce de revue de presse que j'ai sous les yeux. Vous devez être vert de rage de voir certains articles publiés qui...
Tu peux nous en lire par exemple.
Qui raconte tout.
Non, mais c'est vrai que c'est terrible pour le spectateur de lui raconter toute l'histoire. Donc il y a beaucoup moins d'intérêt à voir la pièce. Même. Sauf que... Sinon de voir effectivement deux excellents comédiens sur scène.
Bien dit.
Sauf que même si on disait ce qu'on ne fera pas, l'issue de l'histoire...
Non,
mais non, on va pas le dire.
Moi, finalement, j'ai craqué, je vais le dire, j'en peux plus.
Ce qui est intéressant, c'est aussi comment vos deux personnages évoluent ensemble.
Ah oui, mais c'est ça, c'est l'évolution et la découverte que ces deux personnages ont un parcours absolument dantesque.
Et qu'ils ont forcément un point commun.
Il y a un point qui les rejoint. Voilà. Ils se sont rejoints une fois, il y a quelque chose d'inoubliable qui s'est passé. Il y en a un qui a voulu l'oublier et l'autre qui ne l'a pas oublié et qui fera tout pour lui.
Il y en a un qui a construit une forteresse autour de ce secret et l'autre qui arrive ce soir-là et qui vient assiéger cette forteresse et la perforer.
Présenté en juillet dernier, donc déjà au Festival OFF d'Avignon, ça se jouera à partir du 21 septembre au Théâtre Michel à Paris, et ce jusqu'au 7 janvier. J'imagine qu'après vous avez des obligations qui...
Jusqu'au 14 janvier. Même.
Pardon, 14. Ouais.
Déjà prolongé.
Tout augmente. C'est déjà un succès.
L'impact de cette émission. 20 minutes prolongées d'une semaine.
Attendez, on va donner la chute tout de suite, vous allez perdre 2 mois.
Fais-moi les malins, vas-y.
Vos oreilles ont sifflé là quand on vous a dit que Christophe Malavoy et Tom Novembre venaient dans l'émission.
Oui, parce que quand je pense à vous, à tous les deux, il y a quelque chose d'assez commun dans vos parcours, dans votre façon d'être. Si on commençait par vous, Christophe Malavoy, je dirais que vous êtes d'une grande indépendance, assez atypique en tant qu'acteur. par exemple...
Prenez le bien dans sa bouche.
Bah ouais. Vous n'avez pas d'agent.
Bien sûr, oui.
Vous n'avez pas d'agent. Vous êtes un des rares comédiens à ne pas avoir d'agent, à ne pas être représenté.
J'en ai eu pendant un certain temps, les agents.
Ouais. Ça fait 20 ans que vous n'en avez plus, là, au moins.
Oui. Je me suis aperçu que ça ne servait pas à grand-chose, puisque je n'ai jamais travaillé grâce, disons, à mes agents. Donc, je suis très content d'avoir nourri mes agents. Mais moi, j'ai toujours été...
Mais l'inverse n'a pas été le cas. C'est pas eux qui vous ont nourri.
Mais vous avez un avocat, au moins, qui...
Alors, j'ai eu, après, quand j'ai quitté mes agents, j'ai pris un avocat, puis j'ai appris un petit peu, voilà. Et puis, finalement, développer des projets personnels, c'est aussi mon but, ouais. Et puis mon envie. De cultiver mon enthousiasme, d'aller dans des parcours très différents, d'aller dans l'écriture, le théâtre, le cinéma.
Mais c'est vraiment atypique, ça, Léla.
Oui, c'est atypique.
Il y a du jardin, général. C'est son frère qui le représente.
Oui, mais il a quand même quelqu'un qui le représente. Ouais. Là, ça passe par vous directement. Est-ce que c'est facile d'évoluer sans ça? Parce que...
Oui, je crois que c'est assez facile quand on sait où on va et ouais. Ce qu'on veut faire. J'ai pas envie, moi, forcément, d'apparaître quoi, tout le temps au cinéma, de faire tout le temps d'enchaîner les choses. Je fais des choix dans ma vie. Mm-hmm. J'ai suffisamment d'argent pour vivre correctement. J'ai pas besoin d'en avoir plus. Et surtout de cultiver une espèce d'ego et de notoriété. Donc, ouais. Moi, je suis effectivement, je me sens un peu à part parce que j'ai pas envie d'enchaîner pour enchaîner, pour être présent et être toujours à l'affiche de quelque chose. Il faut prendre, je pense, en tant qu'artiste aussi du recul et du temps pour regarder comment les choses se passent, qu'est-ce qui se passe autour de vous, mm-hmm. comment les gens vivent. Moi, j'ai du temps, je prends le temps pour l'écriture, pour justement avoir un peu de recul et savoir vraiment ce que je veux faire pour m'y engager d'autant plus, comme dans cette pièce, avec force. Je suis pas là pour... Je ronronne pas au théâtre. Quand je fais quelque chose et quand je choisis de faire quelque chose, j'y vais au bout. Je joue ma vie, moi. En même temps, sur scène, j'ai le sentiment de mettre effectivement ma peau sur la table. Et là, dans cette pièce, il y a une émotion très forte. Elle est pas forcément facile à livrer. Eh ben, il faut y aller et j'y vais. Et c'est ça ma... Mon plaisir.
C'est devenu votre force, ça, d'être à part.
Oui, en même temps, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien.
La solitude. Est-ce que c'est pas un défaut dans un métier de théâtre ou de cinéma qui est un métier de troupe, qui est un métier de partage et,
Ah mais moi je suis dans la troupe.
Et parfois, de réseau. C'est-à-dire après, on sait que certains sont là parce qu'ils font partie de la bande d'un tel ou de la bande d'un tel et que c'est comme ça aussi qu'ils ont construit leur carrière.
J'ai peut-être manqué des choses dans ma carrière. Cela dit.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est est-ce qu'on peut vous reprocher
finalement. C'est ce que tu voulais dire.
Non, il a rien raté.
Certaines, Guy, jusqu'au bout, n'est pas peur.
Non, mais est-ce que vous auriez pu avoir plus, en tout cas.
Mais plus pour quoi faire. Non, mais moi, j'essaye d'être bien dans ma peau et d'avoir envie. Et quand je suis avec les gens, par exemple avec Tom, ça se passe très bien dans une troupe, même si on était plusieurs. J'adore l'idée de la troupe au théâtre. J'adore le théâtre pour ça. Et j'aime la solidarité. J'aime la vérité, la relation authentique. Donc, je suis pas dans la représentation sans arrêt. J'aimerais bien parfois
disparaître. Il peut y avoir des... Est-ce qu'il y a pas des beaux rôles que vous avez vus au cinéma ou au théâtre en vous disant, en ayant rêvé les jouer, en disant... Si peut-être j'étais allé à tel ou tel, alors je sais pas.
Si j'étais représenté par un agent aussi, tout simplement.
Il m'aurait mis sur le coup, j'aurais pu participer, j'aurais pu le faire.
Non, non, il y a un film
et
que
le faire mieux, évidemment.
J'ai écrit d'ailleurs une fois à Jean-Paul Rapneau pour Le Hussard sur le Toit, qui était un roman de Giono que j'adorais et j'aurais bien aimé participer à ce film. C'était pas le cas parce que j'avais dépassé l'âge du rôle. Mais voilà, j'ai écrit à Rapneau pour lui dire que j'aimerais bien faire ce film.
Et là, vous êtes fait violence pour écrire. Vous êtes sorti un peu de.
J'ai beaucoup d'orgueil et bien en même temps. Mais je me suis fait avec Jean-Paul Rapneau que j'estime beaucoup. Je l'ai fait naturellement parce que c'était voilà quelque chose. Je me suis dit allez, faut que je fasse et je l'ai fait. Mais je suis. Je l'ai pas fait une autre fois avec Chabrol dans Madame Bovary, mais on s'est rencontrés parce que je lui dis, je le connaissais déjà Claude, et je lui dis mais tu peux pas faire Madame Bovary sans moi, parce que c'est un aussi Flaubert, c'était quelque chose de très très fort pour moi, et je lui dis il faut que je sois dans ce film, et il m'a dit mais j'ai déjà pensé à toi.
Et à part donc dans ce parcours-là, ça marche aussi avec vous, Tom Novembre, en fait, parce que très très tôt, en relisant,
t'es très à part, toi, t'es un super à part.
Non, mais en relisant vos déclarations, il y a plusieurs dizaines d'années, en fait, vous étiez un des premiers déjà. Mais c'est intéressant à revendiquer le partage et à vous ériger contre une société qui fait du succès une valeur première. Et vous avez jamais cessé en fait de l'ouvrir. Vous le dites, c'est votre liberté de faire part de vos colères.
Il a changé d'avis. Ouais, je suis moins expansif que certains. Ou disons que la propension à balancer des conneries à tort et à travers, c'est quand même pas mal développé. Il suffit de voir Twitter. Hein, c'est quand même l'agora des imbéciles. À mon sens, je résume ça en par cette formule là. C'est peut-être ça ma liberté, c'est d'oser le dire, mais je dirais un paquet d'autres se la sont octroyées, cette liberté, vous croyez pas, ces derniers temps?
Non, mais vous, ça fait très longtemps en tout cas que vous avez un franc-parler qui pourrait ne pas forcément vous servir dans une carrière, et en fait vous n'avez jamais hésité à dire ce que vous pensez, ce que je trouve...
Comme Christophe, je défends des valeurs, ouais. des valeurs qui sont plutôt celles de l'humanité, plutôt que du profit, de l'apparence et de la surface. Je pense que l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, plus que l'emballage. Or, au siècle de la pub, c'est la forme qui compte, et c'est un peu le décalage que j'ai avec le monde qui m'entoure. Donc, je peux pas y jouer.
La liberté d'expression ne peut pas être simplement réservée à ceux à qui on tend un micro et qui ont le droit de tout dire.
Internet, faut réfléchir avant de parler.
J'entends. Internet,
cette fois, sa langue dans la bouche.
Oui, il y a des imbéciles sur Internet, mais pas que. Il y a aussi des génies.
Il y a des spontanéités partout, d'accord.
Mais la
spontanéité n'est pas toujours le révélateur d'une vérité. C'est juste une vérité instantanée, personnelle, et pas forcément une généralité à laquelle on demande. Or, via les médias, on demande toujours aux uns et aux autres d'adhérer ou pas à une déclaration, ou à une vérité, ou à une réaction. Un tel dit quelque chose, l'autre répond le contraire. Alors, dans quel camp êtes-vous? C'est toujours
été le cas. C'est pas les médias qui décident de ça.
Sauf que les idées sont tellement, les idées se diluent, les idées fortes se diluent dans cette espèce de profusion de commentaires périphériques, à mon sens.
Mais la faute à qui? À ceux
et là,
qui
on
portent.
Est sur un débat,
non,
putain,
non, mais,
là.
Non, mais c'est pas ça,
okay.
Non,
je me trompais pas,
mais est-ce qu'on peut pas parler de la fin, on parle d'autre chose.
Deux secondes, est-ce que la faute est à ceux qui portent les idées, qui sont...
Non, c'est comme ça, je juge pas ça, je commente, je fais comme tout le monde, et je m'octroie la même liberté que tout le monde, mais j'essaye de le faire avec davantage de parcimonie. Je pense pas être présent en permanence. Je suis pas un adepte des réseaux sociaux particulièrement. Simplement, on me pose une question, je réponds sincèrement et au nom de valeurs qui sont les miennes, qui sont celles de la solidarité, du partage, effectivement, de voir plutôt l'humain que le profit. Le spirituel que le matériel, puisque le matériel, on y est du matin au soir. l'histoire.
L'être et pas la voix.
Et ça, c'est des propos qui sont cohérents dans l'itinéraire de Tom Novembre. C'est pas juste un effet de mode, c'est depuis tout le temps.
Mais...
Oui, non, mais c'est ça. Et quand on vous entend là prendre la parole et vous emballer pour défendre votre point de vue, voilà,
c'est limite gênant.
Mais non, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. C'est dans ce sens-là, c'est qu'il y a une vraie pensée qui s'assume pleinement. Et je trouve que pour le coup, tous les deux, avec vos itinéraires un peu différents, vous êtes bien trouvés.
Ben, je dirais, on a la même approche, je crois, notamment de notre métier, qui est qu'on est plus intéressant par ce qu'on fait que par ce qu'on est.
Ouais.
Donc, on fait
on
un
se
métier.
On ne sert pas des rôles à des fins personnelles. On essaye de vraiment de s'engager dedans et de servir un auteur. Voilà. Et il y a un ego. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment un ego très développé. On pense pas forcément à nous tout le temps. Donc.
On y pense, mais pas que.
Non, mais pas que, c'est vrai. Non, mais là, il y a une complicité avec Tom sur le plateau qui est très agréable. On fait partie.
Surtout dans un duo. C'est de la musique. Non, il faut énormément écouter la partition de l'autre pour pouvoir accorder les violons, c'est le cas de le dire.
Voilà, il est musicien, il est chanteur. Moi, je suis un peu aussi musicien. Je connais un peu la musique. Et on est, d'ailleurs, le jeu, c'est quelque chose de musical.
Et
ça s'appelle fausse note, mais la musique est juste.
Ça s'appelle fausse note. Non, mais parce que tout part justement pour des amoureux de la musique. Ouais. Tout part d'une fausse note.
Et vous l'avez senti dès le départ, cette complicité, cette possibilité de jouer
en
musique ?
Non, ils attendent le 14 janvier. Pour savoir si ça...
Mais on se connaissait, on n'avait jamais travaillé ensemble avec Tom, mais on se connaissait depuis longtemps. Et moi, j'appréciais son parcours, son travail, l'homme qu'il était. Donc on s'y retrouvait naturellement, avec le plaisir de mettre en œuvre notre complicité, parce que sur un plateau, il faut être très complice, et ça se sent d'ailleurs sur un plateau, les gens qui s'estiment.
Ne s'y trompe pas. Au théâtre Michel, fausse note, avec Christophe Malavoy et Tom Novembre qui sont nos invités. Voici l'humeur de Frédéric Siris.
Bonjour les amis, alors vous le savez Nagui, hein, je ne suis plus parisien depuis maintenant 3 ans.
Ouais, ça roule mieux.
On a quitté Paris parce qu'en fait j'en avais marre de voir des habitants plus déprimés par 2 jours de pluie que les habitants de Saint-Barth après 2 ouragans. On a perdu le sens de la mesure dans cette ville. Il y a des Syriens plus détendus vis-à-vis de Bachar el-Assad que des Parisiens vis-à-vis d'Hidalgo. C'est un truc de fou.
C'est vrai qu'elle prend. Elle prend en ce moment.
Non, mais c'est un truc de fou, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en ce moment à la télévision, tu regardes des gens à l'autre bout du monde, ils sont là, j'ai perdu ma maison, mais ma famille et moi, on a la vie sauve, donc on va reconstruire. T'écoutes un Parisien, les voitures mères sont fermées, et puis en plus il y a les grèves, comment je vais avancer, on nous prend en otage, il n'y a pas de rançon. Enfin, il faut se calmer, quoi.
On ne parle pas comme ça.
Non, mais si, quand même. Donc moi maintenant, on a déménagé, et maintenant j'habite au fin fond de l'Essonne, dans une ville tellement pas connue, que quand on me demande à côté de quelle grande ville ça se trouve, et ben en général, on ne connaît pas la grande ville non plus. mais j'y suis vachement bien. C'est cosy. C'est une ville entourée de forêts, il y a de la verre. Dur, c'est village de pierre, il y a plein de retraités avec des grandes barbes blanches. Si ma maison était un champignon, j'aurais l'impression d'être un schtroumpf.
Un druide.
Oui, voilà, c'est vraiment bien. En plus, on n'a pas les problèmes de Paris. Par exemple, la circulation alternée chez nous, c'est tous les jours. Une journée, une voiture, le lendemain, il n'y en a pas. Le hérisson qui a envie de se suicider chez moi, il est déterminé et très patient. On n'a pas les serveurs de café qui font la gueule en te servant ton truc. D'ailleurs, on n'a pas de café. On a un bar qui fait tabac, presse, pressing, poste, relais colis, soutien scolaire. Aide la personne et qui est tenu, et tout est vrai, par des Chinois.
Bien.
Et ça, j'avoue que la première fois, ça m'a fait un choc. Quand même.
Pourquoi?
Parce que je les ai regardés, parce que déjà, ils parlent très mal français. Donc, techniquement.
Sois tolérant.
Non, mais vu la population, ils ne parlent qu'entre eux. Et donc, j'ai regardé, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qu'est-ce qu'ils foutent là?
Il est en train de devenir raciste. C'est
surprenant. Je me suis demandé, vous êtes tibétains? Vous êtes des réfugiés politiques? C'est comme ça que le gouvernement chinois punit les opposants? Vous les envoyez dans un patelin où il n'y a rien? J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est comme ça, c'est les règles de ma ville. Et d'ailleurs, le père de famille qui est en moi adore vivre là-bas. Par contre, le gauchiste se sent un petit peu coupable.
Ah.
Oui, parce que la mixité sociale, en dehors de mes deux Chinois, là-bas, disons que le seul moyen pour que mes enfants croisent des noirs, c'est que j'invite mon demi-frère à manger à la maison. C'est le seul truc, vraiment. Mais je veux dire, tout est différent dans cette ville. Un arabe du coin, ils appellent ça le proxy. La banlieue, ils appellent ça la forêt. Voilà. Et malheureusement, on a un maire. Et c'est une femme fascinante, cette femme. C'est Kim Jong-un avec un utérus. En plus, et de l'humanité en moins. On a une mère, quand elle a été élue, elle a dû se dire, c'est comme si elle avait envahi la Pologne. Tu sens que dans sa tête, ça y est, elle a les pleins pouvoirs. Quand Trump discute avec Poutine, elle doit être étonnée de ne pas avoir été invitée. Dès son élection, ça a commencé. Elle a voulu fusionner avec la ville d'à côté.
Mon Dieu.
Oui, personne ne lui avait demandé. Hein. C'était toute seule comme ça. Elle s'est dit, tiens, on n'est pas assez gros. Il faut fusionner avec la ville d'à côté. Cette femme, elle emménage à côté de chez toi. Le soir, tu la retrouves dans ton canapé, les pieds sur la table. Oui, je trouvais que ça faisait un petit peu petit chez moi. Ça vous dérange pas? Elle respecte tellement pas ses frontières, on l'a appelé Netanyahou. Et là, dernièrement, c'est Free, l'opérateur des mobiles, qui voulait installer une antenne à 100 mètres de là où je vis. Juste à côté de la crèche. Bon, je suis le premier à dire que c'est une formidable évolution technique de pouvoir regarder des vidéos de chatons sur Facebook en attendant le RER. Mais le truc, c'est qu'on en avait déjà une d'antenne, à 50 mètres cette fois-ci. Sauf que celle-ci, elle appartient à Bouygues et SFR, qui eux ne veulent pas partager. Alors nous, les habitants, on a signé une pétition pour dire que deux antennes sur 200 mètres, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup d'ondes. Hein, j'ai un voisin, il a un pacemaker, il capte Canal 7 quand il lève le bras. Donc quand même. Et la mairie nous a répondu. Écoutez, j'ai bien entendu votre requête, je vous propose qu'on en reparle une fois qu'elle sera construite. Mais c'est incroyable le nombre de mots qu'utilise cette femme pour dire « je m'en bats le steak », c'est incroyable. Et le pire, vous savez quoi, c'est qu'elle est construite cette antenne. En pleine nuit, c'est Bouygues BTP qui l'a montée sur un espace protégé et sans permis de construire, hein, parce que Bouygues, il veut pas partager son antenne, mais il veut bien se faire payer pour construire celle des autres. Et je parle de ma ville, mais je me suis renseigné, ça arrive un peu partout en France, en toute illégalité, tout ça pour avoir son sacro-saint réseau. Donc si vous êtes confronté au même problème, je vous invite à faire appel à l'association Robin des Toits, qu'ont pas mal de...
Parce qu'effectivement,
ça se propage.
C'est pas une vanne, c'est vrai.
Non, tout est vrai. Et on dit souvent que le pouvoir corrompt. Moi, je crois surtout qu'il rend très très con.
Merci Frédéric Sigris. Les amitiés à ta mère.
Nagui, la bande originale.
Dans quelques minutes, nous recevrons un historien, Johan Chapoutot, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne, qui a notamment signé l'histoire de l'Allemagne de 1806 à nos jours, puisque la toile de fond est autour de cette pièce. C'est ce chef d'orchestre qui va peut-être partir pour Berlin. Pour diriger le Philharmonique de Berlin, ce qui peut être le summum de sa carrière. Et c'est pour ça aussi qu'on pense à Karajan.
Pour remplacer Karajan.
Karajan qui lui-même avait un passé pas très flamboyant. Nous parlerons donc de l'histoire de l'Allemagne et de la culture allemande avec Johan Chapoutot tout à l'heure. Mais d'abord en musique, justement, pour illustrer non pas fausse note, mais quelques moments de votre carrière, de vos carrières. Par exemple, Tom Novembre, dans les années 82-83, vous écoutiez Marvin.
Ah oui. Oui. J'étais jeune et chaud.
Alors, jeune et chaud.
Jeune et chaud, ouais.
C'est ce que t'as dit?
Ouais, jeune et chaud, sexual healing, ça. Le mec qui réveille sa copine la nuit.
Oh, c'est chaud, c'est vrai que c'est chaud ce morceau.
Ouais. Et Barry White ne m'impressionne pas.
C'est vrai, avec la voix que vous avez.
Vas-y, sortez les violons.
Là, on est en 82-83, c'est pour Tom Novembre, son premier album.
Oui, et vous êtes déjà diplômé des Beaux-Arts?
Oui.
Déjà ce parcours, et ensuite, mais c'est parce que je voulais revenir sur le One Man Show.
Oui.
Les Taupes, c'était au théâtre de Jazé.
Exact.
Et vous l'aviez écrit à quatre mains, j'ai envie de dire, enfin à deux mains, je sais pas, avec votre frère Charlie Lee. Et il était question de quoi?
Les taupes, comme son nom l'indique, racontaient différents personnages qui avaient creusé dans leur coin et puis qui étaient sortis à l'air libre, qui s'étaient pris un coup de pelle bêche et qui étaient retournés dans leur galerie avec toute leur expérience ratée et qui exprimaient. Alors on avait droit à un photographe de MJC spécial, qui faisait des photos en sautant pour donner du mouvement à son. Enfin voilà, bon, des imbéciles, mais drôle, enfin et touchant en même temps. C'est toujours été le cas de mes personnages.
Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes fait appeler Tom Novembre, ça vient d'où?
Oui, de mon mois de naissance, je suis un scorpion comme Nagui,
les meilleurs.
Et de la contraction de mon prénom. Voilà, donc. Puis c'était. Je voulais faire la différence avec Charles Ellis.
C'est Jean-Claude. Tom Novembre.
Et c'est aussi la période de version pour doublage, donc le. Pour le coup de la sortie de votre premier album.
Eh ben justement, voici un extrait.
Aiguillant, maillot de bain, boucle d'oreiller, crème solaire. Elle suce une glace à deux boules, le Walkman.
C'est honteux. Elle suce une glace à deux boules, franchement, Tom.
Bah oui. Je t'ai dit, sexual healing, j'étais jeune et chaud.
Christophe Malavoy, dans ces années, début des années 80, vous écoutiez.
The Voice. Les Croneurs,
Frank Sinatra.
Sinatra, Dean Martin, Bing Crosby. Ouais. La classe.
C'est chic, ouais. La mafia aussi.
C'est chic.
Ça, c'est classe.
Et là, c'est le César du meilleur espoir masculin. pour votre rôle dans Family Rock.
Oui,
José Pinheiro.
José Pinheiro, ah oui, c'était une aventure magnifique avec José Pinheiro. Et puis Sylvie Orsi, qui était ma partenaire, actrice magnifique aussi. C'est
la reconnaissance par vos pères, là.
La reconnaissance, moi, je démarrais vraiment, et donc je me suis retrouvé. Je ne pensais pas du tout, moi, faire du cinéma. Je me suis dirigé vers une carrière au théâtre. C'est le théâtre que j'aimais. Et le cinéma, je l'ai croisé par hasard, et j'ai reçu un César d'espoir. C'est le seul César que j'ai reçu, c'est peut-être le plus beau d'ailleurs, non ?
Ouais, et vous aviez déjà joué avec, en 78, c'est Deville qui vous avait
oui, Michel
offert
Deville.
Votre premier, ouais, premier rôle en fait.
Le premier rôle, c'est vrai, c'est Michel Deville qui me l'a proposé, tout petit rôle, mais dans le dossier 51.
Voilà. Ouais.
Et Michel Deville qui est devenu un ami.
Qui vous a révélé au grand public avec Péril en la demeure.
Qui m'a révélé au grand public avec Péril en la demeure.
C'est votre premier carton, Péril en la demeure.
Oui, oui, c'était un très gros succès et un film formidable et magnifique. Et Michel Deville allait au théâtre, il allait voir les spectacles, il allait voir les comédiens. Et donc j'étais surpris d'avoir un grand metteur en scène comme ça qui me propose quelque chose dans un de ses films.
C'est moins le cas maintenant, les réalisateurs vont
moins. J'ai l'impression qu'il y a plus des directeurs de casting qui vont voir les comédiens, mais les metteurs en scène, je pense, ne se déplacent pas assez au théâtre. Oui.
C'était dans Péril en la demeure où vous étiez légèrement
un peu nu, oui.
Dénudé, c'est ça.
J'ai passé, je pense.
Est-ce que ça pose un problème?
Une semaine ou deux semaines ou 10 jours à poil dans ce film, quand même.
Et pas
c'est toujours plus long pour faire les séquences, mais je me sentais finalement.
Est-ce qu'on se dit je le fais pas, j'accepte de me mettre nu au cinéma?
Non, c'était plus difficile pour Nicole Garcia. C'est toujours plus délicat pour les femmes.
Pourquoi?
Parce que je sais plus, je pense que une fois qu'on est nu sur un plateau, au bout de 10 minutes, les gens vous ont vu et vous acceptent comme ça. Toscan Duplantier était passé sur le plateau un jour, j'étais entièrement à poil et je l'ai accueilli comme ça. Et moi, j'étais pas gêné, c'est lui qui était gêné. Il ne s'est pas rentré. Il dit mais entrez.
Non, je crois.
C'est vrai que aujourd'hui vous êtes habillé.
Et c'est très gênant.
J'en ai fait certains. C'est très gênant. Je me suis dénudé un petit peu. Quoi.
En 1995, Tom, vous écoutiez. Les Red Hot Chili Peppers.
Et là, c'est Robert Altman.
Attends, tu veux pas savoir ce qu'il aime chez les Red Hot, non, avant?
Non, je sais pas. Oui, alors c'est quoi?
Ça va aller, il est là.
L'énergie un peu débridée parfois. Voilà. Puis il y a des riffs et des gimmicks qui sont.
Une basse de dingue.
Ouais. Ah oui.
Et ça reste très rock.
Oui, c'était un bon lifting du rock de ma jeunesse, je dirais. Voilà, passons à la question.
Non, mais parce que c'est un bon mélange entre le funk, enfin la manière de jouer la basse, un peu très
funky. C'était très dansant et ça restait, il y avait une énergie profondément rock.
Tiens, on va encore l'écouter un peu plus fort. Tiens.
La guitare toute simple.
J'étais impatiente en fait, Tom Novembre, parce que 95, c'est Prêt à porter de Robert Altman, avec un casting de folie, et vous retrouvez là-dedans. Racontez-nous comment ça se
aussi,
fait.
Là aussi, plein de comédiens nus à la fin aussi, le final de Prêt à porter, c'est un défilé nu.
Ce que j'en retiens, c'est qu'il a fallu un quart d'heure à Monsieur Altman pour décider que j'allais faire partie de sa bande. Voilà, il se trouve qu'il y avait Fred Ward, un des acteurs qui n'avait pas pu venir, donc il avait transféré un rôle sur un autre personnage. Il y avait une case vide et j'ai passé beaucoup d'essais avec des réalisateurs français qui me connaissaient en arrivant et qui à la sortie me répondaient même pas pour me dire si c'était bon ou pas, donc c'est que c'était pas bon en général.
Zéro politesse,
Altman, je suis rentré dans le bureau, non c'est rare. Enfin peu importe, je suis rentré dans le bureau, on a discuté, moi avec un anglais approximatif, je pratique mais je suis pas aguerri, et il lui a fallu un quart d'heure pour ressortir. Alors, en ressortant je me demandais qu'est-ce qui se passe, et là j'ai un assistant qui est venu en disant c'est bon, il a dit qu'on vous donne le scénario,
qu'est-ce qui lui a plu.
Donc je veux dire, un type comme lui, en un quart d'heure il vous juge, il vous sent, il vous considère apte à faire ce qu'il attend de vous. Et puis ça vous permet de rentrer dans une cour de avec un casting impressionnant, quoi, où on, à chaque, enfin on est à Cannes tous les jours, quoi.
Sophia Loren, Julia Roberts, ouais. Marcello Mastroianni,
Tim Robbins.
Qu'est-ce qui lui a plu chez vous, vous savez?
Ah non, je sais pas, le style, ouais. Voilà,
bah, c'est
une élégance naturelle, ouais. qui collait bien avec le personnage auquel il pensait pour moi.
Sexy,
c'était celui d'un assistant de Forest Whitaker avec qui j'ai passé quelques quinzaines.
Après, à ce moment-là,
j'ai épousé juste à la sortie.
Christophe Malavoie, vous écoutiez. On est milieu des années 90, ouais. Compay Segundo, ouais.
Ah oui, mais ça, c'est le
Buena Vista,
le documentaire de Wenders, ouais. Qui était magnifique. Et qui, ouais, j'ai découvert cette musique et je l'écoute encore. Hein. J'aime bien beaucoup cette nonchalance, ce rythme, ce swing et cette fantaisie, quoi. Il y a toujours un peu d'humour derrière.
Et vous signez un roman, alors justement, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale dans quelques instants, seconde, j'espère, guerre mondiale dans quelques instants. Mais vous avez écrit un roman sur la Première.
Parmi tant d'autres.
La Grande Guerre.
Oui, j'ai écrit un roman inspiré par la mort de mon grand-père. Et la guerre de 14, j'ai travaillé pas mal dessus. C'est qu'à un moment, je suis allé sur le terrain, voir que ce soit à Verdun, où d'ailleurs je suis allé il n'y a pas très longtemps au mémorial, là, qui vient de rouvrir avec un nouveau site magnifique. Je conseille à tous d'y aller. Et sur le terrain même, où on voit vraiment encore la guerre, elle est encore présente dans des villages qui ont entièrement disparu. Il y a aussi Péronne, il y a aussi plein d'endroits dans la Somme, le chemin des Dames. Ce sont des endroits, moi, qui me hérissent le poil et qui me font... C'est vrai qu'il y a, bon, je pense à tous ces jeunes gars qui se sont... quand on est sur le plateau de Californie, là, au chemin des Dames, on comprend que c'était impossible, que les ordres qu'ils recevaient, c'était impossible devant autant de fils de fer. J'ai un tout petit morceau de fil de fer barbelé sur mon bureau. Qui est celui... Bah oui, d'abord, j'oublie pas mon grand-père, il a pris 5 balles de mitrailleuse en pleine poitrine, il embarquait la troupe, il est sorti de la tranchée, il s'est effondré, on aurait peut-être pu le sauver, il est resté 8 jours à attendre, à mourir dans un abri de secours.
Et vous voulez dire, ce fil de fer, vous l'avez gardé, vous l'avez pris où, ce fil de fer?
Je l'ai ramassé en Champagne, pas loin de là où il est tombé. Et bah ça me parle, oui. Je regarde de temps en temps, mes yeux se posent dessus et je repense. Et vous savez, je pense que la force qu'on prend aussi en tant qu'acteur, on n'est pas tout seul. C'est mon grand-père, enfin tout. On est poussé par une histoire.
Ses racines, oui.
Ouais.
Ah, c'est très émouvant quand vous parlez de... Il était lieutenant, je crois, c'est ça ?
Il était lieutenant, parce qu'il avait fait, voilà, il n'était pas du tout dans l'armée, mais il avait fait les études, il était lieutenant de réserve, et il est mort en 1915 en Champagne, le 14 mars.
Puisque
moi, je trouve
parlons...
ça très émouvant parce que quand vous racontez cette histoire-là, et je comprends bien comment vous puisez de la force, du courage en fait, parce que c'est ça, c'était une guerre tellement terrible.
Terrible,
et
ces
gars-là,
ces hommes, ces poilus ont eu du courage et ils ont vraiment été. Et la guerre était à 200 mètres, ouais. à 200 km de Paris, elle était tout près. C'était donc. Et voir les conditions dans lesquelles ils ont vécu, ça fait mal.
Alors justement, nous avons un historien, ça tombe bien, Johan Chapoutot. Vous entendez Christophe Malavoie parler comme ça de la Première Guerre mondiale. Je vous vois opiner du chef. Il en parle bien et c'est vrai que ça.
Mais il en parle très bien et ça résonne avec son métier d'acteur. Moi, je vous écoutais tous les deux parler de votre conception du métier, de vos valeurs, et je vois, en vous écoutant, je comprends mieux comment le temps s'est sédimenté en vous et pourquoi vous portez ces valeurs-là et pourquoi vous portez cette voix-là au théâtre. C'est très poignant de vous entendre.
Professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Paris-Sorbonne, on parle de l'Allemagne, puisqu'il s'agit de Berlin aussi et de toute l'histoire de l'Allemagne, un tout petit peu dans cette pièce. Vous
la découvrez.
l'histoire, mais un tout petit peu.
Un tout voilà, petit peu. C'est ça. L'histoire de l'Allemagne.
En fait, non, mais j'ai bien compris en avant dans le studio que j'étais invité pour la boucler. Mais surtout
non,
pas
non, 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 non. Moi, c'est, non,
ce qui
non,
est gênant,
c'est
parce que,
tout, ce que je voulais, ce que je voulais
on
que l'on dise.
Divulgage rien.
Ce que, voilà, exactement. Ce que je voulais que l'on dise, d'abord, c'est, est-ce que l'Allemagne a tout réglé avec son passé, et d'un point de vue culturel, et d'un point de vue historique? Parce que c'est vrai qu'elle a elle a toute une histoire, elle a un passé culturel, qu'il soit musical, qu'il soit artistique, littéraire, et elle a un passé qu'elle essaye évidemment de gérer, de régler, ce passé nazi qu'elle continue encore de régler tous les jours. Est-ce que c'est facile de cloisonner comme ça les deux pans de son histoire et de son passé?
Non, parce que l'identité allemande est engagée sur les deux thèmes. D'une part, la patrie des poètes et des penseurs, comme on dit, et des musiciens. Ouais. Et de l'autre part, la matrice du nazisme. Et alors, il y a eu une sortie du nazisme en Allemagne qui a pris longtemps. À mes yeux, je pense que le dernier épisode majeur, le dernier soubresaut de la sortie du nazisme, ça a été dans les années 70, il y a 40 ans exactement, ce qu'on a appelé l'automne allemand, hein, l'épisode terroriste de la RAF. La RAF, ce sont des terroristes qui étaient des jeunes gens dans les années 70 et qui ont tous la même biographie. Hein. Dans leur biographie, on voit tous chez chacun d'entre eux ce moment où ils découvrent le passé nazi de leurs parents. Voilà. Donc c'est une espèce de règlement de compte vis-à-vis de la génération des.
Non mais au-delà de ça, il y a des morceaux par exemple qui sont qualifiés des compositeurs qui étaient qualifiés de nazis ou qui avaient été choisis par goût peut-être par Hitler ou par certains nazis et qui restent collés. Je sais que chaque fois qu'on passe le
Wagner.
Oui, on se dit ok, bon ça c'est un nazi. Quand on parle de Karajan avec son passé aussi, on se demande s'il a été ou pas dans les jeunesses nazies ou il a été. Il y a plus de débat.
Karajan a très clairement fait carrière sous le nazisme. Et il a fait ce qu'on attendait de lui.
Et donc
pour
comment
Wagner, le procès est un petit peu plus délicat quand même.
Comment garder...
Il est déjà mort depuis longtemps.
Comment ne pas oublier la culture et tout ce qui a été créé avec ce qu'il y a de bon et encore une fois, le distinguer de tout ce qui est néfaste et pourri comme le nazisme.
Bah, c'est peut-être une formidable occasion de penser ce que c'est que l'humanité, au fond, ce nazisme et ce paradoxe d'une culture très développée. Il faut voir que l'Allemagne était dans les années 30 le pays le plus alphabétisé au monde. C'était par ailleurs la patrie des prix Nobel, sans parler même de l'héritage culturel que vous évoquiez. Donc c'est ça l'Allemagne, et c'est également le pays d'Hitler et le pays du nazisme, le pays qui a déclenché la Shoah. Bon. Et ça nous offre, nous, une occasion de penser ce que c'est que la culture et ce que c'est que l'humanité. Nous défendons du nazisme en disant bon, ils étaient allemands ou ils étaient fous, on n'a rien à voir avec ça. Or, on peut voir que à l'exemple même des acteurs de la Shoah, qu'on peut être un nazi convaincu, un nazi pratiquant, si vous voulez, et en même temps quelqu'un de très cultivé. Bon, des épisodes célèbres, hein. Reinhard Heydrich, qui est le numéro 2 de la SS et qui est l'architecte de la solution finale, de ce qu'il appelait lui-même la solution finale, était un violoniste, lui-même fils de compositeur, fils de chanteur d'opéra.
Vous enlevez tout espoir là en disant ça parce qu'on se dit à la limite qu'on est idiot, qu'on commette des choses
horreurs.
Monstrueuses.
Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas trop Nagui dans l'ensemble. On sait qu'il y a un
mais c'est vrai que venant de deux personnes qui ont eu accès à la beauté ouais. absolue, c'est ça la musique, c'est ça la culture, c'est une forme de beauté. On est dans le monde des idées, on domine tout et arriver à
le raffinement, c'est vrai.
C'est ce raffinement-là intellectuel et arriver à se
déboucher sur l'horreur,
à se salir. À ce point-là pour commettre des actes monstrueux.
Au contraire, je pense que c'est plutôt un message d'espoir. Ça dépend comment on pense la culture et la beauté. Si vous pensez la culture et la beauté comme quelque chose auquel chacun peut avoir accès, quelque chose d'universaliste, là vous vous trouvez dans notre configuration à nous. Hein, les droits de l'homme, l'universalité du genre humain, l'humanité tout simplement. Ces gens-là, eux, ne pensaient pas la culture ainsi. Ils pensaient que c'était le produit d'une race, que c'était le produit d'un peuple, que c'était le produit d'un sang, et que c'était quelque chose auquel on avait accès si et seulement si on faisait partie de ce peuple, de ce sang, de cette race.
Mais la culture, c'est multiculturel.
Ben oui, mais non, pas pour tout le monde, justement. Et c'est juste le nazisme nous permet de penser ça, si vous voulez.
Est-ce qu'on peut en profiter pour dire aux parents, faites attention, si vos enfants font de la musique classique, ils peuvent devenir nazis.
Non.
Maintenant.
Je continuerai d'encourager ma fille à faire du violon, je te rassure. Avant de se quitter, j'avais, puisque l'actualité du
Goncourt parle beaucoup de ce livre autour de Mengele, signé Olivier Guez.
Olivier Guez,
Est-ce que je voudrais juste que nous évoquions une question sur la fuite de ces nazis éparpillés dans le monde entier et ceux qui ont fait de véritables enquêtes pour essayer de les retrouver. Ce qui fut le cas de Mengele, qui a réussi à fuir en permanence tous ceux qui lui couraient après, à ne jamais être condamné et avoir de multiples identités en Amérique du Sud, sans pour autant qu'aucun service secret ne réussisse à mettre la main dessus.
Vous avez des dizaines de milliers de cadres nazis et collaborateurs aussi de toute l'Europe qui arrivent à fuir après 1945. Généralement en vendant leurs compétences. Vous avez les scientifiques, cas très connus. Vous avez ceux qui se recyclent en restant sur place aussi, parce qu'on a besoin de cadres, on a besoin de juges, on a besoin de médecins, on a besoin d'administrateurs, on a besoin de fonctionnaires, on a besoin de chefs d'entreprise. Donc on garde des gens sur place. Et ceux qui fuient arrivent à rentabiliser, si vous voulez, leurs compétences. Alors, le cas des scientifiques, le programme Apollo des États-Unis.
Oui, la NASA en a récupéré pas mal.
Voilà, c'est le programme V1, V2 de l'armée allemande. Et c'est le programme de la balistique de la Wehrmacht, très clairement, et de la SS. Et vous avez d'autres spécialistes qui sont des spécialistes de la police. Police, renseignement, alors tous les cadres du SD, de la Gestapo, etc., qui, eux, savent comment torturer, savent comment démonter un réseau, combattre, faire de la contre-insurrection.
Et ils ont été récupérés pour...
Dans un contexte de guerre froide. L'exemple typique, c'est Klaus Barbie. Klaus Barbie s'évade, curieusement, bizarrement. Il travaille 2 ans pour les services secrets américains dans le Berlin de Munich. Et puis ensuite, on l'envoie en Amérique du Sud parce que c'est en Amérique du Sud que l'on estime qu'il y a le front majeur de lutte contre le communisme. Et donc tous ceux qui, en étant dans une guerre froide naissante, tous ceux qui veulent combattre les communistes, y compris les Français avec la Légion étrangère. La Légion étrangère, vous avez 35 000 Allemands. Au début des années 50. Ah ouais. Et parmi ces 35 000 Allemands, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens SS.
Oui, mais pas des leaders nazis qui étaient...
Mais on recycle les compétences à tous les niveaux. Barbie n'était pas un leader nazi.
Il y a encore beaucoup de procédures contre d'autres Mengele, d'autres Barbie.
L'extinction des actions juridiques suit la démographie. Donc une fois que la personne disparaît, voilà. Alors il y a quelques procès encore spectaculaires. Là, on en arrive à des niveaux de sous-fifres et de lampistes. Il y a eu par exemple 2 gardiens de camp qui ont été jugés en Allemagne l'année dernière. Ils ont 90 ans, 95 ans. On en fait.
Mais l'Allemagne a besoin de régler aussi ses contacts avec le passé.
Oui, l'Autriche aussi, et puis la France, et puis
tout le monde. On est sans arrêt dans cette.
Dans le public, on a un ancien nazi. Est-ce que vous pourriez le reconnaître?
Merci Johan Chapoutot d'être venu à notre micro apporter vos connaissances. Il vous avait publié La loi du sang, penser et agir en Asie. C'est aux éditions Gallimard, l'histoire de l'Allemagne aux presses universitaires et la révolution culturelle nazie toujours chez Gallimard, ça c'est votre dernier ouvrage. Merci mille fois. Tanguy Pastureau sera là tout à l'heure, mais est déjà là pour nous dire que vous allez parler de Michel Onfray.
Oui, Onfray, c'est ce monsieur taciturne qui dégage la même envie de vivre qu'une huître de la bête cancale après 8 ans passeur de la flotte. Mais c'est un penseur, un type intéressant et qui devait intervenir dans l'émission politique de France 2. Seulement, il a annulé puisqu'on lui demandait de bosser gratis. Gratis, c'est ce mot pour lequel les Qataris n'ont pas de traduction. C'est un scandale, Nagui.
Absolument. Et Tanguy viendra pousser son coup de gueule tout à l'heure à midi 10. Mais d'abord, voici une cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. On va commencer par vous, Daniel Morin.
Alors, entre vous, Tom, qui engueulait tout le monde, et vous, Christophe, qui ne parlait à personne, vous pensez que c'était idéal comme rencontre?
Bah oui, les extrêmes se rencontrent.
Tom Villa.
Donc, Tom, on révèle beaucoup de choses de votre vie privée dans la pièce. Oui. Il était bien, le Laser Quest, il y a 15 ans à Ponto Combo ou pas?
Ah, oh, génial. Si je peux, j'y retourne.
C'est vrai? Faudrait que c'est triste.
Christophe, vous êtes plutôt whisky, coca ou jus de tomate?
Alors, surtout pas le coca, si j'ai à choisir, je prendrais le jus de tomate ou le whisky, je préfère le vin, nettement.
Ah, enfin, un homme de goût. À suivre donc tout ça dans la dernière partie de l'émission, ça sera après les infos de midi sur Inter.
Oh, qu'est-ce qu'on est bien sur France Inter.
On est d'accord.
Il y a la bande originale.
On est d'accord,
il y a ce jeu.
Comme une pomme dans le noir.
Je ne voudrais pas insister, mais Ali a débordé d'une minute alors que vous avez pu faire votre flash à 12h. Normalement prévu.
Je ne voudrais pas en parler parce que vous pourriez
en tirer avantage.
Pas du tout. Je dis ça parce que Laurence Bloch
était pas seule.
Et on n'est pas en train de perdre une minute, là?
Voilà.
Bah, apparemment, pour les siennes, il vaut mieux la perdre après qu'avant.
Oui, moi, je m'en fous, maintenant.
Elle, ça l'arrange. Voilà, c'est tranquille. Jusqu'à 14h. Heure, on retrouvera Laetitia. Et d'ici là, 13h, le journal d'Inter. Merci, à tout à l'heure, Laetitia Gaillet. C'est la bande originale, soyez bienvenus avec Leïla Kadopoulou.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Raël Sigrist. Et nos invités, Christophe Malavoy et Tom Novo.
Oh, oui. Bonjour.
Au théâtre Michel, vous serez, mais en fait non, vous serez au Philharmonique de Genève, dans la loge du chef d'orchestre de renommée internationale, joué par Tom Novembre. Et puis à la fin d'un concert, comme ça peut arriver souvent, on imagine mal à quel point les chefs d'orchestre peuvent être de véritables stars, mais ah, c'est vraiment le cas.
C'est des divas, dans une certaine mesure.
Avec un fan qui vient, qui s'immisce, qui a visiblement passé les cordons de sécurité, le régisseur l'a laissé arriver dans cette loge.
Non, pas forcément, il vient demander une dédicace. Donc,
oui, mais dans la loge, là, on est dans l'intimité. Et puis, il est même dans la loge sans que le chef d'orchestre ne s'en rende compte, puisqu'il entend une conversation au téléphone.
Il a réussi à passer les barrages, donc il sait ce qu'il veut. Quoi.
Et il veut, oui, un autographe, oui, une photo même dans une position bien précise, ça en est gênant. Et puis, on sent que ce chef d'orchestre est un tout petit peu autoritaire, désagréable, perfectionniste, exigeant avec ses musiciens, qu'il est un peu énervé par ce fan, mais bon, ok, il accepte. Par politesse, on va dire.
Par moment, il le flatte, donc c'est toujours agréable, en même temps, ça rassure.
Et là, le comportement de ce charmant visiteur que vous incarnez, Christophe Malavoy, va devenir un tout petit peu
charmant
plus oppressant.
Charmant visiteur et en même temps assez mystérieux, quoi, parce qu'il révèle peu de choses sur lui. Il prend son temps pour faire effectivement une photo, prendre une dédicace. Petit à petit, on sait qu'il connaît bien la vie de cet homme, qu'il apprécie, mais...
Il en connaît tous les détails intimes de cette vie.
Il en connaît tous les détails intimes de plus en plus, de manière de plus en plus intrigante.
On ne sait pas lequel des deux, finalement, est inquiétant. Est-ce que c'est le chef d'orchestre, avec son autorité et avec sa manière de se comporter, prêt à virer tout le monde ? Est-ce que c'est ce fan qui rentre dans la vie ? Et on connaît malheureusement trop d'histoires réelles de fans qui tuent leurs idoles.
On ne sait pas très bien, et c'est ça tout l'intérêt de la pièce. On ne sait pas très bien quelles sont mes véritables motivations. Le personnage de Tom est quelqu'un avec un caractère assez fort, pas forcément agréable dès le départ, alors que moi je suis plutôt très lion et très gentil et très admiratif, donc je lui envoie effectivement des fleurs, et donc il reçoit avec sympathie et
courtoisie.
Et petit à petit, le fait de s'incruster, le fait d'être de plus en plus d'être un petit peu, disons-le, envahissant et gênant et emmerdant, ça va devenir...
Ça cache quelque chose.
Voilà, ça cache quelque chose.
Les spectateurs sont pas idiots, ils se disent « Oh, il y a anguille sous roche ». Mais c'est toute l'intrigue et c'est tout le sel de la pièce.
Didier Caron en est l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, aux côtés
avec Christophe
Lestranger. Voilà. Et cette pièce est extrêmement bien écrite, tous nos compliments à Didier Caron, parce que au-delà du suspense qui a lieu à chaque réplique, il y a aussi pour vous, j'imagine, un vrai plaisir de comédien, puisque vos caractères, vos personnages évoluent au tout de la première réplique à la dernière.
Ah, ça, c'est vraiment deux grands acteurs comme nous.
Dites-le. Voilà.
Non, chevronné, on va dire. Chevronné, ça suffira.
L'ego est de retour.
C'est un travail formidable. C'est vraiment un peu un cadeau pour les acteurs d'avoir autant de matière. Moi, j'avance un peu masqué, mais il y a vraiment une grosse matière pour s'investir en tant qu'acteur dans une pièce.
Tom,
vous l'avez dit, il y a une mutation de chaque personnage entre le début et la fin de la pièce, donc ça c'est intéressant à jouer. Et puis tout ça se fait dans une espèce de conflit. Enfin, au début, on est dans la courtoisie, puis petit à petit, la situation se tend. Donc,
il y a
un panel d'humeur, de situation.
Il y a une fragilité qui s'installe chez l'un comme chez l'autre.
Duel, c'est un duel, malgré tout, ça reste un duel. Alors, à fleur et moucheté au début, puis à la calache à la sortie. je veux dire, au fur et à mesure.
Et tout ça dans un huis clos.
Ça se durcit, quoi.
Et tout ça dans un huis clos, ce qui a rajouté à la chape de plomb.
Absolument. Dans un décor qui ne bouge pas, qui évolue quand même, parce que le décor est habilement fait, parce qu'on passe après dans dans un autre décor.
Ouais, mais sans décor et lumière sont très astucieusement
construits. C'est très sobre et très expressif.
Saluons Florent Barnaud donc pour la lumière et pour le décor, Marius Strasser.
On aurait pu les inviter.
Ça, on aurait pu, ouais. Si on avait été poli, on aurait pu. Au Théâtre Michel, à partir du 21 septembre prochain, Christophe Malavoy et Tom Novembre sont en spectacle. Il est l'heure, à 12h12, largement, qu'ils maltraitent l'info. C'est Tanguy Pasturo. Et bonne nouvelle, Tanguy, l'émission politique revient bientôt sur France 2.
Oui, France 2, c'est cette chaîne fabuleuse dirigée de main de maître par des gens compétents et dévoués et dont les émissions inondent de joie et de connaissances les foyers qui la regardent.
Très bien.
Voilà, Nagui, j'ai bien mis tout ce que vous m'avez dit hier. Et le 28 septembre redémarre l'émission politique. C'est celle où Pujadas avait lâché sur Fillon Christine Angot sans ses pilules. Ce qui fait qu'elle l'avait pris pour un pouillot à grands sourcils, c'est un oiseau, et qu'elle l'avait quasiment mangé sans sauce. Alors depuis, Pujadas s'est fait sortir par Delphine Ernotte, boss de France Télé, tel le porteur de basket au nom à consonance africaine d'une boîte du 8e arrondissement. Il est retourné à LCI, là où il a commencé. C'est comme si Clara Morgan, qui est à la retraite, revenait voir Fred Coppola et lui disait « Bébé, je t'assure, j'ai rien perdu. Regarde, j'arrive toujours à placer mes deux pieds derrière ma tête. Ah zut, aide-moi s'il te plaît, je suis coincé. » Reste donc à l'émission politique Léa Salamé, dont la réputation d'intervieweuse coriace n'est plus à faire, c'est-à-dire qu'elle peut faire péter sa pile à un politique juste en faisant boue. Il y a Nathalie Saint-Cricq, qui porte un casque de mobilette en cheveux, Jean-Baptiste Marteau, le journaliste préféré des mecs qui bossent à Le Roi Merlin, et François Langlais, l'économiste à la voix suave, qui a déjà montré plus de courbes que Zaya. Il était aussi prévu que Michel Onfray, le philosophe et gothique, vienne dans la deuxième partie de l'émission, officiellement à 21h30, donc vers 1h10 du matin, pour commenter l'actu. Donc il était calé, la chaîne l'avait déjà mis sur sa plaquette, c'est le seul qui, sur la photo de groupe, ne sourit pas, car il dégage la joie de vivre d'une mouette mazou. Seulement, lundi, paf, il annonce que finalement, il ne viendra pas. À 2 semaines de la reprise, niveau lapin, on est sur un géant des Flandres. Donc là, Delphine Ernotte cherche un autre penseur. Ouais. Elle consulte son carnet d'adresses. Tex, non. Patrick Sébastien, il va vouloir chanter. Nagui, il va vouloir faire chanter quelqu'un. Enfin, elle n'a personne. Elle se retrouve dans la position du producteur de Leonard Cohen, à qui, pour le remplacer sur scène après son décès, on aurait proposé Angoon.
Bon, faites le malin. Est-ce que vous savez au moins pourquoi maintenant Michel Onfray a refusé de faire l'émission?
Oui, TV Magazine l'a contacté. Ah. C'est un philosophe, donc il ne connaissait même pas l'existence de ce journal. Et il a non plus d'ailleurs. Et il répond, mais j'ai refusé parce que par la barbe de Platon, la verge de Socrate et le troisième téton de Kant, il voulait que je bosse gratis. Or, on va pas se mentir, Nagui. La télé, on fait pas ça par passion. Hein, il faut se maquiller comme une greluche de seconde zone, attendre des plombes dans une loge où il y a à manger 3 Kit Kat. S'il y a pas un zig de la prod derrière qui arrive en disant, mon pote, tu vois Zuckerberg, bah par moi, il touche moins que toi, on n'y va pas. Et là, il demande à Onfray de venir pour que fif, alors que Catherine Sellac, le samedi matin, ruine la chaîne en claquant par émission 4 capsules de Nespresso. Mais une fois de plus, le monde des idées est traîné dans la boue, tel le caniche du Saint-Bolt quand il a oublié de lui retirer sa laisse avant de faire son jogging. Alors, une source anonyme et interne à la chaîne, un certain N, affirme qu'Onfray demandait 2000 euros par émission. Or, l'audiovisuel public n'a plus un rond. Un Fanny Agostini qui reprend Thalassa est payé en dorade. Ils ont mis dehors tous les vieux qui prenaient une blinde. Le père, Spernou, l'émergie, pour coller à la place des précaires prêts à bosser pour 3 radis. À une soirée showbiz aujourd'hui, c'est Samuel Etienne, Laurent Bignolas et Passepartout au Buffalo Grill de la Porte Saint-Ouen. La formule sans le café. Non mais, l'autre jour, j'étais en voiture, au feu rouge, il y a Cyril Ferraud qui a voulu me faire le pare-brise. Mais je lui ai dit, mais va chez Bolloré. Hein, Tom Villa, après chaque tournage à C8, il se taille en Belgique pour placer son brosouf. Dans le Thalys, tout le monde l'appelle monsieur. Hein, mais on paye 150 millions pour des fouteux et on peut pas miser 2000 boules sur Onfray, qui store le cerveau H24 et qui a un avis sur tout. L'islam, la circulation à Paris, Cyril Hanouna, le terrorisme et l'omelette au cep. Pas d'accord. Alors ce midi, je le dis, du blé pour France Télé.
Bravo, Tanguy Pasturo.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ça se voit que je lui ai donné trop d'informations pour son papier.
Et qu'il a oublié pour qui il bosse. Alors,
c'est Monsieur N.
Tout à l'heure, j'ai dit que cette pièce, Fausse Note, au Théâtre Michel, pouvait être un film. Est-ce que ça fait partie des idées
qui planent,
des propos?
Je crois que c'est dans les tuyaux. Oui,
c'est vrai,
c'est
il y a une version en cours.
Didier Caron a travaillé sur un scénario et je crois que c'est dans les tuyaux.
Et ce sera avec vous?
Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est un projet. Alors, est-ce que c'est avec nous? Je ne pense pas. Pas forcément, en tout cas.
Seriez-vous vexé que ce soit avec d'autres comédiens?
Non.
Non, parce que nous, on va faire encore plus d'entrées que...
Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Dans cette pièce, il y a... tout à l'heure, vous disiez, ça commence comme une comédie, et comme on est avec ce thème de la musique et ce titre de fausse note, mais parce qu'il y a une fausse note dans vos vies, on sait bien qu'il y a quelque chose qui est le contact, qui est le point commun, le plus petit dénominateur commun entre les deux, et on ne le sait pas, et c'est tout le suspense de la pièce. Est-ce que la difficulté aussi se retrouve dans le rythme du jeu, puisqu'on parle d'évolution, de fragilité de ces personnages, est-ce que le rythme et les intentions sont encore plus importantes que d'habitude au théâtre?
Ah oui, 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 il faut garder une densité, quel que soit l'esprit. Au début, c'est relativement léger, puisque c'est un fan qui rentre dans une loge. Bon. Mais il faut un ton de comédie. Le ton de comédie, c'est aussi un rythme de comédie.
Il y a beaucoup de fausses pistes.
Et il faut pas non plus, s'asseoir sur des effets, s'asseoir sur. Il faut garder toujours le.
Il y a un rythme, forcément.
Voilà, il y a une mécanique qu'il faut mettre en place. Et la loco, elle doit avancer.
Mais il y a des moments donc très rythmés, très tendus. Et puis il y a des moments,
Les silences font partie du rythme.
Il y a des silences qui font peur.
Alors c'est ce que j'allais dire. C'est finalement le ce genre. Pour un thriller, contrairement à une comédie, est-ce que c'est pas là où on a le moins de texte à dire que dans sa posture, dans sa manière de respirer, de regarder l'autre, de certains gestes de la main, on fait passer le malaise que vit.
Il y a des moments où, je veux dire, oui, je pense qu'il y a des moments où les spectateurs font des gros plans sur nous. Au théâtre, on arrive à faire des gros plans. Vous savez, dans un moment de silence, quand on dit rien tout d'un coup, ou quand on parle très doucement. Il y a des moments où ça gueule, il y a des moments où on parle très doucement. Et les gens viennent nous chercher, viennent nous voir. Ils font un gros plan avec leurs yeux.
C'est génial, le spectateur et le réalisateur au théâtre. C'est ça.
Exactement. Oui. Et donc il y a tous ces compartiments de jeu, en tout cas toutes ces expressions de jeu dans cette pièce qui nous permettent d'être effectivement sur la comédie, davantage sur le drame, sur le doute, sur la tension, sur la retenue, sur l'émotion, parce qu'il y a des moments... je pense, parce que à Avignon, les gens étaient quand même debout à la fin et ils avaient le poil qui se hérissait, donc il y avait.
Qui voulait juste partir.
Deux choses. Soit ils étaient très mal assis, ils avaient mal au cul. Soit effectivement, ils avaient aimé la pièce. Bon, c'est l'un des deux. Mais
prenez la deuxième position. Prenez la deuxième position. Fausse note au théâtre Michel à partir du 21 septembre, puisqu'il part. Eh bien, allez plus loin, mon ami. Voici le rêve de Daniel Morin.
Ah oui.
Ça y est,
quoi ?
Il est sorti. Qui ? Enfin, il a été dévoilé. Il est beau. Il est beau, mais un peu cher. C'est l'iPhone 10. Premier prix, 1159 €. En gros, le salaire minimum mensuel en France. Je crois que là, on peut le dire, c'est totalement dingo. 1159 €, le petit modèle, ou 1329 pour le plus costaud. Cette folie m'a tourmenté, les amis. J'en ai fait des cauchemars. Dans mon rêve, il y avait un iPhone 10, là, sur ma table. Un iPhone 10 qui me rendait fier, mais fier ! Fier au point de devenir con. Je m'explique. Devant la beauté de mon nouveau téléphone, j'hésite à l'utiliser pour ne pas l'user. Je le regarde briller, admiratif.
À ce prix-là, oui.
Bah oui, quand d'un seul coup, ça sonne. Une sonnerie plutôt classe, qui allait bien avec le côté chic de mon appareil à 1329 boules.
Ah oui !
Ça sonne, et finalement, je réponds.
C'est que c'est fini, ça.
C'est terminé. C'est mort, c'est l'iPhone 10, 1329, s'il vous plaît. Allô ?
Allô, Daniel, c'est Fred.
Fred ?
Fred Sigrist.
Fred Sigrist ?
Oui, Fred Sigrist, France Inter.
Fred Sigrist, France Inter ?
Mais oui, enfin, on travaille ensemble.
Travail ? Oui, en fait, je voyais très très bien qui était Fred Sigrist. C'est l'humoriste métis au physique négligé avec lequel je partage l'antenne une fois par semaine. Le problème, c'est qu'avec un appareil de ce standing, l'iPhone 10, je ne me voyais pas discuter avec quelqu'un de basse condition. Et l'énorme souci, c'est que si je ne lui parle pas, il va continuer d'appeler. Ça va user la sonnerie de mon téléphone sublime à 1329 boules. Du coup, j'enchaîne. Oui, Fred, pardon, oui, qu'est-ce que tu veux ?
Ben non, mais je voulais te dire que j'étais content de l'émission d'aujourd'hui avec Tom Novembre et Christophe Malavoie, parce que pour une fois, on s'est pas emmerdé.
Attends, pas de ça dans mon nouvel iPhone, non.
Pas de quoi ?
Pas de gros mots ! Dans mon appareil, il vaut 1329 €. C'est pas un petit Samsung de prolo insensible à la vulgarité. Parle mieux, s'il te plaît.
T'as le nouvel iPhone, le 10 ?
Ouais.
Oh putain!
Oh, n'a pas de gros mots dans mon iPhone 10!
Ah, pardon, j'avais oublié, merde.
Mais pas de gros mots! Excuse-moi, Fred, mais tu es trop frustre et mal élevé pour une conversation dans mon iPhone 10. Salut! Et je raccroche furieux, mais d'une douce pression sur mon écran haute définition. Même pas 10 secondes plus tard, on m'appelle en FaceTime, c'est-à-dire en vidéo. Merde, on peut pas être tranquille! Je joue comme ça, on peut pas être tranquille! Ah ben, non, c'est Leïla. Si c'est Leïla, je peux répondre. Elle est polie, Leïla, elle parle bien, elle est très iPhone 10 compatible. Hey, salut ma belle!
Coucou, ça va?
Oui, ça va, mais...
Quoi?
Mais t'as l'air toute bizarre, je sais pas, t'es pas comme d'habitude.
Bah, je sais pas, je viens de me lever, là, de ma sieste. Bon, j'ai pas pris de douche, je suis pas maquillée, c'est peut-être...
Quoi? T'es pas lavé, pas maquillé, tu t'affiches dans mon iPhone 10 avec 329 euros!
Mais je comprends pas.
Mais mon iPhone 10 non plus, comprends pas! Non mais ce manque de respect pour ce qui se fait de mieux en nouvelle technologie, c'est un crachat au visage de l'évolution, ce que tu fais!
Mais t'es un grand malade! Hein.
Oui, mais vaut peut-être mieux être un grand malade que Crado est pas maquillé! Attends, tu vas te laver, tu te maquilles, tu fais un brushing, tu mets une petite robe élégante et tu me rappelles une fois que c'est fait. Salut! Et je raccroche. Eh ben croyez-moi ou pas, elle a jamais rappelé.
Elle s'est jamais lavée.
Mais quel manque de savoir-vivre, merde, à la fin, mon iPhone 10. Alors, quelques minutes plus tard, je me suis réveillé, bien sûr. Non, il n'y avait pas d'iPhone 10 sur ma table, mais juste mon Motorola tout pourri. Là, ça risque à rien au niveau exigence de l'interlocuteur. Du coup, j'ai rappelé Fred Sigrist.
C'est le bon.
Special guest aujourd'hui, Leïla Kadour-Boudadi, ouais. Et Frédéric Sigrist.
J'adore quand il me fait jouer un rôle.
Un casting de dingue.
J'adore.
Un casting de folie.
Un casting pour un téléphone aussi cher. Il est quand même très
cher.
Très cher.
On se dit chaque année, mais
on sait pourquoi.
C'est...
Ouais. Il a quoi en plus?
Les capacités, elles sont plus grosses qu'avant.
Non, c'est la reconnaissance 3D désormais. C'est-à-dire qu'il va pouvoir logiquement te reconnaître ton visage.
Ah oui.
Et si tu pointes vers quelqu'un, il pourra dire voilà, cette personne, elle a acheté telle ou telle chose.
Non.
Si. C'est l'ambition de Tim Cook.
Enfin, c'est surtout le prix.
Et si tu le mets devant Nagui, il explose.
Si tu pointes ton téléphone sur le visage d'un autre.
Il y a un système de reconnaissance faciale qui permettra de recouper via Google et d'autres.
Des informations sur l'autre personne.
Ouais, sur l'autre personne.
Ah, mais c'est bien ça dans les soirées. Mais comment il s'appelle l'autre con? Ah, bah tiens, Nagui. Alors, non,
mais c'est. Mais c'est. Toi, tu sors.
Ok. j'ai rien à dire.
C'est super flippant. Revenons à des valeurs sûres.
Oui, qui
des livres.
Beaucoup moins cher. Voilà. En pleine période de prix littéraire, je voulais juste partager avec vous un coup de cœur. C'est Bakita de Véronique Olmy chez Albin Michel. Elle vient de recevoir le prix FNAC de cette année. L'année dernière, c'était Gaël Faye avec Un Petit Pays.
Ils ont formidable
plutôt,
livre.
Ils ouais, ont ils plutôt ont, de très, très bons goûts. Il y aura la remise du prix demain avec Leïla Slimani, prix Goncourt l'an passé. Donc, c'est pour vous dire que c'est un gage de qualité. Et franchement, Véronique Olmy, c'est pas son premier roman.
Là, c'est pas son meilleur non plus.
Si,
hein.
si. Il est vraiment... Généralement, Véronique Olmy, elle écrit des romans beaucoup plus courts. Là, c'est beaucoup plus long. C'est l'histoire d'une esclave.
C'est pour ça que tu peux le partager.
D'une esclave soudanaise. Je l'ai pas encore fini, mais franchement, il est passionnant. C'est l'histoire d'une esclave soudanaise qui a été canonisée par Jean-Paul II. C'est la première africaine à être devenue une sainte. Elle a été enlevée à 7 ans, elle a été vendue comme esclave, elle a été rachetée à l'adolescence. Et vraiment, c'est toute l'histoire de cette femme à travers l'histoire des hommes. C'est vraiment bouleversant et je vous le recommande. Tiens Nagui, je te l'offre.
Mais tu l'as pas fini?
J'ai un autre exemplaire, j'en ai un pour moi et un pour toi.
Super, ça me touche. Non, ça me touche beaucoup.
Voilà. Et c'est vraiment. Et elle est en lice pour d'autres prix de prix littéraires, donc il faut la surveiller. On en a parlé avec Eric Emmanuel Schmitt récemment.
Exact.
Et à l'Académie, ça sent bon.
Qui est juré du prix Goncourt. parlons de l'avenir, puisque encore une fois, il y a cette pièce évidemment à partir du 21 septembre prochain au Théâtre Michel jusqu'au 14 janvier. Fausse note. Mais Tom, vous serez prochainement dans un film. Sur France 2, un téléfilm sur France 2.
Ah ben, je suis ravi de l'apprendre.
Ah non, alors je me trompe, alors c'est peut-être vous. Alors.
Ah oui, j'ai pas
compris. Oui, Tom Malavoie.
Mystère Place Vendôme.
Mystère Place Vendôme.
Pardon, Tom.
Absolument. J'ai participé à ce film.
S'il y a un petit rôle au mois de juin dernier. Je suis partant.
Avec Marie-Lou Berry.
Voilà, absolument. Oui.
D'accord. Vous faites quel personnage?
Alors, je fais le patron du Ritz. Ça se passe donc dans un hôtel. Ça se passe dans l'hôtel de luxe.
C'est chic.
Et je fais le patron donc je fais Monsieur Ritz.
Très bien,
ça
monsieur.
Se passe dans les. Voilà. Je fais le patron de l'hôtel.
Si je cherche des figurants, des voyageurs,
Et Tom, justement.
Parce que moi, j'ai pas de téléfilm.
Pas de téléfilm, mais est-ce que la musique vous donne rendez-vous pas?
Oui, moi, je continue à bricoler dans mon coin. Vous m'avez élégamment reçu il y a quelques années pour le récital. Donc, voilà, ça s'est bien
ça
passé
fait déjà
en tournée.
Années
oh, c'était 2014, 2015.
C'est sûr.
Ouais,
d'accord,
deux ans,
deux ans, d'accord. Ans, oui, deux ans, ça fait quelques
temps. Donc là, ça va. J'ai fini ma tournée au mois de février de cette année, et donc j'ai envie de repartir sur un deuxième.
Mais vous aussi, Christophe, vous êtes en concert.
Oui. Alors moi, je préside une association qui s'appelle L'Abreuvoir, hein, l'abreuvoir.org. Vous pouvez aller voir tout notre programme de cette année. Et samedi soir, on a à Chevry-sous-le-Bignon, dans un petit village où je réside de plus en plus maintenant, dans le Loiret, on reçoit le Django 53. Quartet qui rend hommage à Django Reinhardt avec Sébastien Gignoux. Donc venez nombreux, ça va être chaud.
Très bien, des excuses à présenter, Daniel Morin.
Évidemment, désolé pour tous les agents de comédiens dont le métier de voleur a été légèrement critiqué par Christophe Malavoie. En même temps, sans spoiler la fin de la pièce, hein, je crois qu'il a raison. Désolé pour tous les réalisateurs français dont le comportement de salaud a été légèrement critiqué par Tom Novembre. En même temps, sans spoiler la fin de la pièce, hein, je crois qu'il a raison, voire pas tort. Désolé pour Tom Novembre qui, malgré lui, s'est trouvé à pousser un coup de gueule contre les coups de gueule. Merde, Tom, à la fin, moi ça me donne envie de pousser un coup de gueule. Et désolé enfin pour Apple et l'iPhone 10. En même temps, non, 1329 boules, vous êtes vraiment des voleurs.
Merci beaucoup, Tom Novembre et Christophe Malavoie, d'être venus pour nous parler de cette pièce Fausse Note au Théâtre Michel. On a tout fait pour ne pas spoiler la fin parce que Madame Rose qui tue avec la clé à molette dans la cuisine, il fallait pas qu'on le dise. Donc nous ne l'avons pas dit. À vous de découvrir tout ça au Théâtre Michel à partir du 21 septembre prochain. Demain, c'est Zep qui sera notre invité dans la bande originale pour parler de Titeuf.